Baudelaire, les Ravel, les Berlioz, les Maupassant, les Renoir et les Rembrandt, qui survivent malgré le temps. Vive les Céline, les Zola, les Saint-Ex et les Degas, les Pascal et les Goya, dont on ne se lasse pas. La culture est une valeur.
Ce soir, on retrouve Colline, qu'on a invitée ici à l'Occupation. Colline,
bonsoir.
On t'a invitée pour parler du rapport entre cinéma et révolte, parce que l'année dernière, tu faisais ton mémoire sur les corps en situation de révolte dans les cinémas des années 60-70, les cinémas américains. Alors d'abord, une première question, pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler là-dessus ?
Alors disons que ce projet de mémoire est né de diverses réflexions. C'est le fruit à la fois d'un projet de philosophie politique sur la révolution et en même temps je voulais aussi travailler sur les corps au cinéma. Et j'ai voulu travailler plus spécifiquement sur les corps au cinéma parce que c'était pendant les années 60-70 aux États-Unis, parce que c'était pour moi une manière de parler des révoltes étudiantines aux États-Unis. Loin de l'analyse historique froide et désincarnée, et de parler justement des corps en situation de révolte. Du coup, c'était à la fois pour parler des représentations des corps, pour parler de la... J'avais aussi une approche phénoménologique qui permettait de parler des interactions entre les spectateurs et les corps filmés dans ces films du Nouvel Hollywood. Et en dernier ressort, c'était aussi une façon de parler de la portée performative du cinéma dans ces années-là.
Mais alors, c'est vrai que quand on imagine le cinéma du Nouvel Hollywood, on imagine la révolte contre la guerre du Vietnam, par exemple, mais les révoltes estudiantines, elles nous viennent un peu moins en tête, je pense. C'est quand même quelque chose qui transparaît dans ce film-là.
Disons que ce qui est intéressant dans cette période-là, c'est que c'est un cinéma qui aborde en creux un certain nombre de questions sociétales, à la fois la question de la guerre du Vietnam et une recrudescence de la violence qui est très perceptible à travers les images médiatiques. Et en même temps, ça évoque effectivement en creux la question des révoltes estudiantines, notamment à travers le film Zabriskie Point d'Antonioni, par exemple.
Comment il fait pour traiter ce sujet ?
Là, en l'occurrence, il s'agit de deux étudiants qui mènent une révolte au début du film. Le point de départ du film, c'est une révolte estudiantine. Et y a l'un des étudiants qui est potentiellement accusé de meurtre et qui s'enfuit dans le désert. Et une autre étudiante qui, au contraire, elle, a vraiment une révolte plus libertaire et qui peut être du côté des étudiants. Et c'est ces deux personnes qui se rencontrent dans le désert et qui vont vivre un amour dans le désert, en marge de la société, mais qui dit quelque chose de l'impossibilité à s'inscrire justement dans l'institution universitaire.
Et en revanche, j'ai l'impression que mon micro ne fonctionne pas. Voilà, c'est parfait. Merci. En revanche, la nouvelle vague, elle, plutôt, marque bien la question politique. Enfin, elle est vraiment abordée. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de cette nouvelle vague que, je suppose, la plupart des gens ici connaissent un petit peu mieux, sans doute ?
Oui, mais je voudrais ajouter sur la question du Nouvel Hollywood, ce qui est intéressant à la différence... de la nouvelle vague, c'est que d'une certaine manière, c'est des films qui, au départ, s'inscrivaient dans des modes de production qui étaient différents des modes de production institués, qui voulaient se distinguer des studios américains et du classicisme hollywoodien. Et finalement, c'est des films qui ont été panthéonisés et qui, maintenant, font partie, d'une certaine manière, du soft power américain, comme les films de Scorsese, par exemple, que tout le monde connaît. Alors que, en ce qui concerne la nouvelle vague... Et le cinéma en 68 en France en général, il était caractérisé un peu par une tension entre la politique des auteurs qui a été amenée par la nouvelle vague et les collectifs de cinéastes engagés.
Tu as l'air un peu perdu.
Pardon. Petite pause.
C'est aussi quelque chose qu'on a vu avec en France, je veux dire, je pense à Digaverto. Des collectifs comme ça, Zanzibar ?
Oui, mais justement, les collectifs, il y avait d'un côté des cinéastes qui vraiment avaient une vocation militante et faisaient des films qui étaient... qui faisaient à la fois des films véritablement militants et des ciné-tracts. Donc eux, ils étaient vraiment dans la ligne directement politique. Et donc là, on peut penser aux collectifs de cinéastes militants comme le groupe... Digavertov, qui en réalité était presque exclusivement constitué de Jean-Luc Godard et de Jean-Pierre Gorin. On peut penser aussi au groupe Medvedkin, ou au groupe Zanzibar dont faisaient partie Philippe Garrel et Pierre Clémenti. Mais finalement, dans l'imaginaire collectif, ce qui a avant tout marqué les esprits, c'était plutôt les films de la Nouvelle Vague et notamment Jean-Luc Godard qui étaient liés indirectement à ce qui se passait en mai 68 de par leur façon de traiter nouvellement des corps et des relations humaines et dans leur façon aussi de mettre en crise l'autorité en général.
Eh bien, justement, au sujet des corps, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le traitement assez nouveau des corps
Ben, là, justement, je pense que en premier lieu, il faut d'abord, dans le cadre du Nouvel Hollywood, c'était vraiment important, notamment au regard de la question de la violence. Dans le sens où on est passé du code Hays qui donnait certaines contraintes spécifiques dans le cadre de bienséance, et après on est passé à des films qui traitaient de la violence et de la sexualité et qui mettaient en lumière la gratuité de la violence et pour parler d'une jeunesse esselée et perdue. Et dans le cadre de la Nouvelle Vague, on aborde moins frontalement et disons qu'il y a moins une esthétique sensualiste, mais en revanche, il y a les questions de sexualité, de relations hommes-femmes et d'orientation sexuelle et de rapport à la parentalité sont, eux, très souvent abordés. Et aujourd'hui, ce qui a plutôt été radicalisé du côté de la Nouvelle Vague, c'est plutôt cette question du rapport du corps, je sais pas, à travers les films d'Abdelatif Kechiche.
Et cette année, Colline, il me semble que tu travailles sur Pierre Clémenti, donc sur une révolte qui est politique, mais surtout existentielle. Alors pourquoi existentielle ? Est-ce que la révolution politique, c'est toujours un exutoire pour quelque chose d'antécédent, de plus personnel ?
L'an dernier, je me suis rendu compte que l'écueil de mes projets de recherche, c'était que je ne creusais pas assez la différence entre la question de la révolte politique et justement la question de la révolte individuelle ou existentielle. Et c'est la distinction qu'établit Albert Camus dans L'homme révolté entre la révolte métaphysique et la révolte politique. Et je trouvais que Pierre Clémenti, il incarnait vraiment cette articulation entre les deux, puisque au départ, déjà, lui personnellement, il a été trimballé de maisons de correction, en foyer, en plein d'institutions de ce genre quand il était petit. Et après, par la suite, il s'est petit à petit politisé de plus en plus et ça transparaît au regard de ses films. Donc il y a vraiment eu un passage de la révolte, d'une espèce de crise de l'adolescence complètement justifiée à un engagement libertaire véritable.
Oui, tu nous avais dit tout à l'heure, parce que bon, on va pas le cacher aux auditeurs, on a un peu travaillé avec toi tout à l'heure, tu nous as dit que une des particularités des films de Clémenti, c'était leur côté psychédélique. Alors moi ça m'intéresse. Enfin, on aime bien l'opium, ce genre de truc.
Une des figures majeures des premiers films de Clémenti, c'était la figure de la surimpression, notamment dans son film qui a été tourné en mai 68, qui s'appelle « La révolution n'est qu'un début, continuons le combat ». Et dans tout le film, il y a constamment la surimpression entre des images sur son intimité, sa famille et sa femme.
Est-ce que tu peux préciser un peu quel est le procédé de la surimpression au cinéma ?
C'est tout simplement quand on met deux images l'une sur l'autre et qu'on perçoit à moitié les deux. Donc souvent, dans le cinéma, traditionnellement, on voit tout le temps un peu surimpression à travers la figure du fondu enchaîné quand on passe d'une image à une autre. Mais la surimpression consiste en le fait qu'on conserve les deux images côte à côte et ça permet soit de mettre en tension deux sujets, soit au contraire de travailler sur l'opacification de l'image et le dévoilement d'une autre image. Mais chez Pierre Clémenti, ça a plus spécifiquement à voir avec le psychédélisme et son goût pour les substances psychotropes.
Et tu penses que dans le cinéma contemporain, on trouve des formes comme ça d'expression, que ce soit des révoltes ou d'idées politiques comme ça, enfin, j'ai l'impression qu'on tombe vite dans l'écueil soit du documentaire aujourd'hui, soit du réalisme un peu, cette école très française du réalisme social, puis que la fiction finalement prend plus tellement en charge ce contenu.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, soit on reproche au cinéma de ne pas être assez politique parce qu'on tombe trop souvent dans du des fresques réalistes sociales comme c'est le cas soit du cinéma des frères Dardenne, mais eux c'est un cinéma qui est assez juste et qui est vraiment spécifique à eux, mais sinon moi je trouve qu'on tombe souvent dans des films un peu bateaux et un peu misérabilistes. Et d'un autre côté, il y a un cinéma documentaire qui est florissant et qui fait preuve de plein d'inventivité formelle, mais qui touche très peu de personnes finalement. Et qui découle en partie de la nouvelle vague et des collectifs de cinéastes des années 60, mais qui touche peu de personnes.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Colline, pour ce moment très instructif et vraiment très très chouette.
Merci, Colline. Merci à vous. Ah, et puis apparemment, il y avait un message à faire passer. Mais bon, je vais laisser la parole à d'autres que moi.
Oui, sérieux, si tu avais envie de faire passer un message, apparemment.
Bonjour, je suis berger, j'ai ramené mes mouflons, j'ai juste un appel du MILF, le Mouflon International Liberation Front, big up, libérez les mouflons.
Ouais, ouais.
Libérez les mouflons. Libérez
les mouflons. Libérez les mouflons. Libérez les mouflons.
Ça valait bien le sacrifice d'un micro, merci beaucoup Sirius pour cette intervention indispensable. Et à 20h58 sur Transistor, on va se quitter sur cette annonce. Ah non, il y avait encore une fin de journal de la culture.
Oui. Eh bien, maintenant que May est très en colère parce que l'on veut libérer les mouflons et pas les moutons de Soé, je vais quand même faire quelques annonces parce qu'on a beaucoup parlé de corps là. Et demain, justement, il y a le laboratoire junior altérité, marginalité et catégorisation qui va faire une conférence en compagnie d'Ariana Sforzini, si je prononce bien, donc doctorante en philosophie, je crois, et Marie Astier, qui travaille sur la représentation du handicap sur scène. Donc voilà, allez-y, ça a l'air très intéressant. C'est en BU, il me semble. De 14h à 17h, donc c'est pas trop long, c'est juste 3 heures de votre vie à ne pas perdre. Et sinon, ici, n'oubliez pas, il y a toujours plein d'événements culturels qui se passent, et comme ça a été dit un peu plus tôt dans la soirée.
Et on va d'ailleurs pas tarder à enchaîner sur une projection, et on va donc tout de suite rendre l'antenne à 20h59. Maintenant, on a rattrapé la montre. C'était le journal radiophonique amplifié de Transistor, une émission coordonnée par Rémi Cerda avec cette semaine François-René Julliard, Maë Burla, Marie Lécuyer, Robin Lenoir, Sarah Andria et Léa Jusso. On remercie bien sûr Colline, notre invitée du journal de la culture, et puis bien sûr les occupantes et les occupants qui nous ont rejoints à la suite du journal. On remercie Félix Barancy en régie qui a beaucoup souffert pendant cette petite heure de direct. Et on se retrouve d'ici 2 semaines pour le dernier amplifié de l'année, toujours sur www.transistor.fr.
Vive les mouflons !